voix nue. Toute cette semaine, Jean-Noël Jeanneney rencontre Anne Pinjot.
Anne Pinjot, bonjour.
Bonjour, Jean-Noël Jeanneney.
Vous avez choisi de publier en cette année du centenaire de la naissance de François Mitterrand, du 20e anniversaire de sa mort, vous avez choisi de publier aux éditions Gallimard l'ensemble des lettres et des messages qu'il vous a adressés de 1962 jusqu'à quasiment à sa mort. La dernière lettre est du 22 septembre 1995 et vous y avez adjoint, en complément, en corollaire, le journal qu'il a rédigé pour vous, jour après jour, de 1964 à 1970, sont des feuillets quotidiens où il a mêlé à la fois un récit manuscrit de ses activités avec divers découpages de journaux, de photographies variées qui sont données en fac-similé. Je gage que cette édition, Anne Pinjot, va prendre la figure de l'événement le plus important de cet anniversaire. C'est un événement considérable, à la fois d'un point de vue littéraire et d'un point de vue historiographique. Car ces deux ouvrages que vous nous donnez sont d'une richesse à peu près insondable. Je pense qu'ils pourront être lus et seront lus de bien des manières. D'abord comme naturellement une contribution à une meilleure connaissance, à une meilleure compréhension des personnages majeurs de notre histoire nationale au XXe siècle, sur lequel ces pages jettent une lumière puissante, une lumière vraiment, vraiment très, très, très neuve. Mais aussi comme un regard précieux plus largement sur la vie politique de ces années-là. Mais aussi, et j'ai le goût de le dire, comme un éclairage sur les relations entre les hommes et les femmes en une époque qui est à la fois très proche et très lointaine. Je crois que vous l'éprouvez comme telle. Mais aussi sur la vie culturelle telle que vous l'avez personnellement vécue et à votre place, enrichie, seule ou à ses côtés. Mais aussi, Anne Pinjot, et peut-être au premier chef, un éclairage sur ce que vous êtes et ce que vous fûtes. Et cela me paraît de grande importance, à la fois affective et historique. Alors je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir souhaité réserver à France Culture les seuls commentaires publics que vous avez décidé d'en faire dans le cadre de 5 émissions d'une demi-heure. Je commencerai en citant une phrase de Mazarine, la fille que vous avez eue avec François Mitterrand et qui est née en 1974, qui a parlé de vous en disant que vous étiez l'héroïne d'un film que personne ne verra jamais. Alors maintenant, on va le voir. Pourquoi avez-vous décidé de sortir de l'ombre où vous étiez si délibérément, si constamment enveloppé?
Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas. Et tout a commencé par la lettre officielle que vous avez écrite avec Hubert Védrine, donc qui est le président de l'Institut François Mitterrand, il y a trois ans, en demandant si je n'avais pas des lettres pour célébrer l'anniversaire des 100 ans. Et donc, j'ai rouvert une correspondance qui a commencé il y a plus d'un demi-siècle. Et puis, je l'ai transcrite, ce qui était à la fois une épreuve et une façon assez étonnante de revivre toute ma vie. Mais après, faut-il le publier? Il fallait mieux attendre une publication posthume. Et c'est là où je vous ai demandé conseil imprudemment. Parce que imprudemment, parce qu'en tant qu'historien, tout document pur, si on peut dire, avait beaucoup de valeur, et vous m'avez convaincu qu'il fallait publier.
Je veux dire que pour vous-même aussi, j'ai pensé que c'était opportun.
Je ne sais pas. Bon, il savait que je conservais tout par métier et par nature, mais est-ce qu'il voulait que ce soit publié? Vous voyez, toujours je me pose la question.
Oui, et vous pensez quoi?
J'hésite. Tantôt, je pense que oui, tantôt, je pense que non.
Tant de goût des mots, tant d'esprit littéraire, tant de plaisir à se colter avec l'expression de ce qu'il éprouve, longuement, me paraît incompatible avec l'idée qu'il aurait souhaité que ce soit détruit.
En tout cas, j'ai suivi votre conseil. Vous êtes très, très coupable dans l'histoire.
J'assume cette culpabilité.
Parce que vous m'auriez dit qu'il ne fallait pas, je ne publiais pas.
Une lourde responsabilité, mais oui. Je suis prêt à l'assumer. Puis j'ai pensé aussi aux lettres d'André Gide que Madeleine avait détruites.
J'ai vu la cheminée où elle les a brûlées. Ça, c'est une chose très impressionnante. Parce que tout a été modifié. Mais il y a la cheminée. Et on l'imagine là, brûlant ses lettres. Ou Catherine Pozzi brûlant les lettres de
Paul Valéry.
Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je ne sais pas.
Non. On n'a pas le droit. On choisit le moment où on permet à un plus large public d'accéder à ces documents. En effet, il m'a semblé que le moment était venu.
Oui, vous c'était aussi, ça. Puisque... Le grand problème, est-ce que le moment est venu ?
Cette magnifique correspondance que vous nous donnez à connaître, les lettres de François Mitterrand sur une si longue durée, correspond peut-être à la dernière génération des vrais correspondants. En la lisant, je ne pouvais pas ne pas songer à Georges Clemenceau, qui, à la fin de sa vie, vous connaissez ses lettres, dans les années 20, a écrit 400 missives magnifiques d'amour à une jeune femme. Il était octogénaire, il y avait à peu près la même distance de temps, peut-être un peu plus qu'entre François Mitterrand et vous, Anne Pinjot. C'est un moment qui est en voie de disparition. D'ailleurs, il évoque lui-même, François Mitterrand, l'évolution de la communication. On s'écrivait trop peu ces temps-ci sous l'effet de la commodité des communications. Écrire oblige à réfléchir entre les lignes, à former des mots qui prennent tout aussitôt un poids redoutable.
Oui.
Le poids est là dans ces lettres.
Oui.
Il y a un déséquilibre, bien sûr, entre ces lettres, ce sont ces lettres, et les vôtres. De temps en temps, surtout à la fin, vous avez choisi de nous en donner quelques-unes dans une autre typographie. Et le lecteur sera content de vous entendre aussi parler.
Je ne sais pas.
Vous avez fait ce choix ?
C'est l'inquiétude. J'ai toujours... Enfin, je mets en ordre les choses. J'ai 73 ans, je mets en ordre. Et c'est la crainte que ça ne soit pas fait correctement. Donc ça, c'était aussi un motif de publication. Et toutes les gens qui ont travaillé chez Gallimard sont vraiment des professionnels remarquables. Ça, j'ai beaucoup apprécié la façon dont ils font les choses, hein, avec élégance.
Efficacité et respect.
Oui. Je l'ai dit là, j'étais allée... dans l'appartement de Marie Dormois, qui avait légué des petits bronzes de Mayol au musée de Strasbourg. Et c'était Victor Beyer, qui était alsacien et qui était dirigé le département des sculptures du Louvre à l'époque, m'avait demandé de l'accompagner. Donc je l'avais accompagné. Et de trouver cet appartement avec tous les tiroirs ouverts, les photographies jetées par terre, toute cette vie qui avait été importante, ça m'a vraiment bouleversé.
Elle était la compagne de Paul Léoto.
Oui. Mais. Et puis aussi, j'ai vidé la maison où on habitait à Clermont-Ferrand, qui est une magnifique demeure, un ancien couvent du XVIIIe, qui depuis 200 ans était habité, et tout le monde gardait tout. C'est facile de garder, hein. C'est dur de jeter, c'est facile de garder. Et donc, il a fallu vider cette maison, les petits pains de la première communion de 1848, les deux choses. C'est vraiment dur. Alors, c'est aussi une raison pour faire les choses soi-même, comme ça on ne les impose pas aux autres. Mais en même temps, ça serait bien d'être posthume, c'est-à-dire de ne pas entendre ce qui va être dit, de ne pas savoir.
Je ne pense pas que ce qui va être dit à l'occasion de cette publication, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas, je ne pense pas que vous en serez blessé. Anne Pinjot, vous avez choisi d'inscrire en épigraphe de ce livre majeur, vous avez choisi d'inscrire en épigraphe une phrase de Montaigne, tiré de ses essais au livre 3, au chapitre 5, qui me demanderait la première partie en l'amour, je répondrais que c'est savoir prendre le temps, la seconde de même, et encore la tierce, c'est un point qui peut tout. Pourquoi cet épigraphe ?
Ah, parce que ça résume à peu près le rythme de cette histoire, où le temps a compté immensément. Ce n'est pas la même notion du temps que nous avons maintenant. Là, on repart à un passé très très proche des siècles précédents, qui n'a rien à voir avec le temps d'aujourd'hui.
À lire, en effet, ces pages, on est frappé à la fois d'une familiarité avec les personnages qui y circulent, et en même temps d'une vraie distance, c'est vrai. Et puis, il y a cette dialectique de la liberté et du secret qui me paraît au cœur de votre vie, et aussi, en définitive, de la décision que vous avez prise et que vous venez d'évoquer. C'est peut-être incarné presque dans cette bicyclette que vous avez choisie pour vous déplacer partout dans Paris et que je trouve à certains égards symbolique. Discrétion, liberté.
Heureusement, maintenant j'ai beaucoup d'émus là. Paris a changé. C'était très agréable trouvaille de M. Delanoë de nous réserver des voix que j'emprunte et de prendre des sens interdits que j'ai toujours pris. Je trouve ça très agréable.
On ne dira personne.
Non.
Vous avez eu, parce que vous êtes une femme de science, vous avez donné une édition scientifique de ces lettres, ce qui est très précieux pour chacun, avec des détails, des notes au cours des textes, quand on ne comprenait pas forcément de quoi il s'agissait, à propos de toutes les allusions, et puis vous nous donnez un index qui est fascinant.
Oui, mais encore, Gallimard n'en a gardé que 2000 entrées sur les 4500, je ne sais plus quoi, que j'avais réussi à trouver. Mais un index, c'est utile, parce que ça permet de corriger beaucoup de choses.
De corriger, et puis de circuler dans tout un univers, d'aller d'un nom à l'autre. Oui. Et comme il s'agit de 1200 pages, à peu près, on pourra y rentrer de différentes façons. Bien sûr, et en particulier en passant par ce truchement. Alors avant toute chose, je voudrais parler du contraste qu'il peut y avoir entre la vie que votre courage a choisie et, d'autre part, le monde de votre enfance. Vous parlez du monde patriarcal de mon enfance.
C'était une des raisons de notre entente. C'était que moi, dans ma famille, il y avait une ou deux générations de retard. C'était la province, très, très réactionnaire, hein, de droite, pas évoluée. Et j'ai eu une formation dans ce sens. Mais ça rejoignait, au fond, l'enfance de François Mitterrand, qui avait à peu près le même genre de bourgeoisie, peut-être un peu plus ouverte, je ne sais pas. Mais je crois que ça a compté beaucoup, parce que on comprenait très bien cette trame de devoir, cette trame de limite aussi, que lui, il a dépassé, mais qui m'a aidé aussi à dépasser. Je repense aux repas. Il y a plus beaucoup de repas en famille maintenant, mais ça, c'était des repas interminables. Et quand on a eu le droit de parler à table, je n'ai qu'entendu, par exemple, sur la vision de la femme. La femme est quelqu'un qui doit être soumis, qui ne doit avoir aucune vie intellectuelle. Et ça a compté beaucoup quand même. Ça empêche. Il va falloir l'aide de François Mitterrand pour essayer d'avancer autrement, dans une autre direction. Mais en même temps, ce côté de soumission a fait que j'ai accepté, au fond, l'inacceptable. Donc ça jouait dans les deux sens.
Vous descendez d'un maréchal de France. D'ailleurs, François Mitterrand avait quelques coquetteries dans ses lettres. Coquetterie, je ne sais pas. Il fait souvent allusion. Il parle de votre profil Fayol.
Oui, il se moque.
Le maréchal Fayol. Ce regard tendre et triomphant, je le cite, dans vos yeux, hérité d'un maréchal de France. Fayol, c'est un des six maréchaux de France de la Grande Guerre de 14-18, avec Joffre, Foch, Pétain, Franchet-Desprez et Monoury. C'est une figure totémique dans votre quotidien.
Oui, c'était très important. C'était très important, d'autant plus que ma grand-mère, qui était ma marraine, était sa fille bien aimée. Il y a donc une filiation très proche, bien qu'il soit mort dans les années 20. Mais c'est un personnage qui existait.
Vous avez son portrait dans votre bibliothèque. J'en ai été frappé. Et vous avez aussi un cousin qui a été compagnon à la Libération, je me trompe, Émile Fayol.
Et c'est-à-dire que ce maréchal Fayol avait deux enfants, sa fille bien-aimée Jeanne et son fils Pierre. Bon, ils sont tous polytechniciens, y compris mon grand-père. Nous n'en dirons pas ce qu'en disait Clémenceau.
Et qu'est-ce qu'en disait Clémenceau?
Que pour faire perdre la Prusse, il fallait créer une école polytechnique. Mais ceci près, donc son fils, pendant la dernière guerre, est parti dans la Royal Air Force à Londres. Et eh bien, un jour, il est parvenu. Donc son avion a été descendu. Et entre-temps, il avait épousé une Anglaise. Et il avait eu une petite fille qui s'appelle Chantal, qui est ma cousine. Et donc, qui n'a jamais connu son père, puisque son père est mort en avion. Et ses beaux-parents, donc ce fameux Pierre Fayol, le frère de ma grand-mère, tout le monde habitait la même maison aussi, c'est ça qui nouait beaucoup les liens. C'est une merveilleuse maison que plus personne n'a maintenant. Ils sont allés à la gare de Clermont-Ferrand pour voir arriver cette jeune Anglaise avec cette petite fille qui était ce qu'il leur restait de leur fils. Et on a tous vécu ensemble dans cette maison où il y avait un jardin merveilleux avec des lilas de Perse qui embaumaient. Enfin, c'était un petit paradis pour les enfants. Et donc, cette histoire familiale vous expliquera ce côté tout à fait refermé avec les mythes d'autrefois.
Votre père était un industriel.
Alors lui, c'était pas bien parce qu'il avait fait Centrale, ce qui était beaucoup moins bien que Polytechnique. C'est un sujet de mépris.
Je suis désolé de l'apprendre.
Et donc c'était un ingénieur. Et lui, il était un homme bon, mais pas du tout versé dans la littérature, dans les arts. C'était le contraire.
Ce qui l'a rapproché de François Mitterrand, du côté d'Hossegor, puisque vous y passiez des vacances, c'est le golf.
Ah oui, ça sent le golf, rien de cette histoire n'aurait existé. Donc, son grand bonheur, c'était de jouer au golf d'Hossegor, qui est fort beau, hein, puisqu'il pleut beaucoup, il y a une pelouse magnifique, et c'est toujours très élégant. Et donc, il ramenait, après les parties, il ramenait ses amis à la maison, qui était une jolie maison sur le lac. Donc ça, c'était le côté paternel. Et puis, quand j'avais l'âge de 14 ans, parce que c'est une chose qui m'a marquée, il a ramené André Rousselet et François Mitterrand, mais qui étaient jeunes, puisqu'il n'avait que 14 ans. Ça m'a laissé une impression, mais ineffaçable.
Quelle impression ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ces deux personnages, donc, que je verrai toute ma vie, je vois la scène.
Ils étaient contemporains ?
Mon père avait un an de plus. Et André Rousselet, que je regrette tant, était plus jeune.
Qui a été au cabinet de François Mitterrand, oui. Jeune ministre à la fin des années 1940, oui. Et son ami de toujours.
Oui, et son exécuteur testamentaire.
Et votre ami, c'est un de ceux qui a été dans la confidence d'un bout à l'autre.
Oui, d'un bout à l'autre non, mais oui. Oui.
Vous aviez 14 ans quand vous avez rencontré l'homme qui...
C'est drôle hein, de se souvenir de ce visage.
Avec précision.
Ah oui, tout à fait.
Vous passiez vos vacances à Hossegor et lui aussi.
Donc Hossegor, c'était mon grand, du côté de papa, mon grand-père, qui avait une belle maison des années 20 sur le lac au moment où il n'y avait personne, donc on pouvait s'installer comme on voulait. Et au bout du jardin, mais toujours sur le lac, il y avait une petite maison en bois faite par une Norvégienne, je ne sais plus, et que mon grand-père avait rachetée. Et mon père ne rêvait que d'une chose, c'est de l'indépendance, d'être dans cette petite maison, parce qu'ils étaient très nombreux. Et donc, on a toujours vécu dans la petite maison. Et puis après, dans les partages de famille, il a eu la petite maison. Donc, toute ma vie, je suis allée à Hossegor. Et maintenant, la petite maison appartient à mon plus jeune frère. Et donc, c'est loin.
Il y avait une joyeuse nichée. On était plus proche de la comtesse de Ségur. Je ne sais pas si vous étiez Camille et Madeleine ou bien Sophie que des jeunes gens d'aujourd'hui.
C'était... Comment dire, tout est tellement différent, mais tout a tellement changé. Vous savez, à la campagne, donc la campagne, c'est à côté de Clermont, en Auvergne, dans les montagnes, on faisait la moisson encore avec la faux. Moi, j'ai vu les moissonneurs avec leur pierre à aiguiser dans la corne de vache à la ceinture, puis on trempait dans l'eau. Donc, c'était étonnant d'avoir vu cette révolution. Et alors, une fois, j'étais au muséum, et je vois la courbe des hommes dans le monde. Et donc, cette courbe, elle est très, très douce, jusqu'après ma naissance.
Démographique.
Oui, et après ma naissance, elle monte en flèche. Donc c'est ce changement considérable. C'était vide la campagne, maintenant tout est construit partout. Et puis il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de...
Vous évoquez l'Auvergne, Clermont-Ferrand, ma petite Arverne, dit François Mitterrand dans une de ses lettres. C'est là qu'est la racine de votre ascendance.
Oui, oui. Mes deux parents étaient de là... depuis toujours.
La petite usine, l'usine oui. De votre père, qui fabriquait quoi ?
Alors, il fabriquait des détendeurs. Vous savez, dans les bouteilles de but à gaz, quand vous changez votre bouteille de but à gaz, vous avez une pièce ronde qui permet de passer de la bouteille au tuyau. Non, ça ne vous dit rien. Et
donc, je devrais, si j'étais un homme moderne, j'imagine.
Ça s'appelle matrissage décolletage. Des énormes poids qui tombent sur des pièces en cuivre qui les empruntent. Et puis après, enfin, oui. Des choses comme ça. Mais mon grand-père Pinjot, lui, était un inventeur. Il avait inventé le briquet à gaz.
Henri Pinjot.
Oui, et malheureusement, il a vendu son brevet. Mais ça, c'était un vrai inventeur. Et lui, il était venu parce que son père, qui était agent de change, avait de très vilaines affaires, je crois. Et la mère, qui était une mère énergique, lui avait dit « Tu vas retrouver les cousins Michelin à Clermont-Ferrand et puis tu feras là ta carrière. » Et il a travaillé jusqu'au jour où il s'est senti assez fort pour voler de ses propres ailes. Et il a dit aux cousins Michelin qu'il allait être maintenant indépendant.
La proximité des usines Michelin qui dominent la région est très importante dans cette histoire familiale, non ?
Très importante. Il admirait énormément la façon de travailler de Michelin, c'est-à-dire que c'était pas la gauche, hein. Mais il admirait énormément. Mais alors les cousins Michelin ont dit, bon, à Henri Pinjot, maintenant, tu te débrouilles. Nous, on a un carnet de commandes plein déjà, donc... bon, mais il s'est débrouillé fort bien, sauf que ça n'a pas fait trois générations, quoi. Mon père, après, et puis après, ça s'est arrêté.
Le petit groupe des enfants, vous aviez une sœur aînée.
Nous sommes 5. J'ai ma sœur aînée qui compte énormément pour moi. Ensuite, 2 garçons. Et ensuite, ma petite sœur.
Votre sœur aînée a vécu une vie beaucoup plus proche de ce que vos parents pouvaient attendre.
Ah, c'était l'exemple parfait. On l'a appelée d'ailleurs la morale. Mais c'est quelqu'un qui a le sens du devoir, qui fait que sans elle, je ne sais pas comment je m'en serais tirée. Hein. Dans cette famille, vous imaginez que d'avoir un enfant hors mariage, c'était la chose la pire, la plus inenvisageable. Et c'est pas ma mère qui serait venue, donc j'étais chez ma sœur. C'est elle qui, et alors qu'elle était aussi, elle avait la même formation, mais elle acceptait, elle avait tous les courages, toujours.
Vous reproduisez, Anne Pinjot, assez peu de lettres qui ne sont pas de François Mitterrand dans cet ensemble splendide, mais vous avez donné les réactions de vos parents lorsque vous leur avez, votre père d'abord, puis votre mère, vous leur avez annoncé que vous alliez avoir un enfant. On est en août 1974.
On peut plus se rendre compte maintenant. C'est tellement naturel d'avoir un enfant hors mariage. On ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça que j'ai mis ces lettres, surtout celles de ma mère, qui reflètent exactement l'état de la société, de sa société.
C'est sur le banc de sable devant la maison que Martine m'a dit « Non, la terre ne sait pas ». Entrouverte sous mes pieds, un peu quand même.
Oui.
Mais je suis sur le haut de la dune, face à la mer, pour t'écrire.
Même pas écrire de la maison, si quelqu'un était arrivé, elle aurait pu voir.
Il me faut bien une telle force, une telle puissance, pour essayer de comprendre. Seule une petite voix, toute petite comme celle d'un oiseau, chante dans un coin de mon cœur pour me dire que ma petite Anne est heureuse, puisqu'elle a rencontré le véritable amour et qu'elle attend un bébé. Même tonalité chez votre père, à la fois stupéfaction et puis tendresse en définitive.
Oui. Non, c'était un homme bon.
Il n'empêche que le contraste entre cette tradition, ces origines qui auraient pu vous imposer une sorte de conformisme absolu jusqu'aujourd'hui, le contraste entre cela et votre quête passionnée de liberté, marque beaucoup l'ensemble de ces lettres de François Mitterrand. On voit tout cela en quelque sorte en creux, dans la manière dont lui-même le considère, parfois admiratif et parfois inquiet.
Il était fou. C'était quand même un pari de son côté un peu incroyable. Mais en même temps, ça a été une libération de... Je pense qu'il y a quand même un milieu un peu... Par rapport à ses conceptions d'enfant, un milieu un peu frelaté dans lequel il était, j'imagine, par rapport à ses émotions de 12, 13, 14, 15 ans. Et là, il retrouvait cette enfance, des valeurs qu'on ne met pas en discussion, une certaine sécurité, et puis le goût de former quelqu'un, certainement.
Pygmalion, il emploie lui-même l'expression à un moment donné.
Oui, mais c'est vrai.
Avant de revenir à ces échanges, en vérité hors de pair, qui vous ont réunis, je voudrais que vous nous disiez comment vous avez organisé votre indépendance, comme dans les romans du 19e siècle, où vous montez à Paris pour échapper en quelque sorte à cette emprise.
J'étais contente, j'avais 16 ans, mais j'étais heureuse.
Comment avez-vous fait ?
Alors, dans mes parents, on mis dans un foyer de jeunes filles, tout ce qu'il y a de bien, qui s'appelait l'abbaye au bois, qui était un reste de l'abbaye, la vraie abbaye au bois de Madame Récamier. C'était tenu par des religieuses que nous aimions beaucoup, et c'était très très serré, il fallait rentrer le soir avant 10h. Le dimanche soir, il n'y avait pas d'eau chaude, il fallait chercher un broc d'eau chaude. Enfin, c'est toutes ces conditions qui ont changé. J'étais contente. Et là, je préparais le concours des arts décoratifs et des métiers d'art.
L'École nationale des métiers d'art.
Oui, qui était incroyable, mais vrai, dans l'hôtel Salé, c'est-à-dire là où est le musée Picasso. Et il y avait dans cette école des métiers d'art, pour le staff, l'affiche, la peinture sur porcelaine, le vitrail, il y avait toute une série de choses. Et je me vois en jeter des seaux d'eau sur les parquets Versailles, authentiques. Parce que pour le vitrail, il y avait un four, il y avait toutes les tables de montage. Et c'était ces magnifiques salles à l'étage noble de l'hôtel Salé. Je n'y retourne jamais sans émotion, parce que c'est là où j'ai eu 20 ans. C'était peut-être la plus belle époque de ma vie, parce que j'ai aimé faire des vitraux. On apprenait surtout la copie d'anciens, la restauration, à faire aussi des ouvrages personnels, mais c'était en fin d'année, en fin de carrière.
Vous donnez un vitrail un jour à François Mitterrand,
qui
le conserve comme une sorte prodigieusement précieux.
C'était une copie.
Et on voit passer de l'ambition d'être créatrice, de dessiner, faire des vitraux, au goût de la science progressivement. C'était une histoire qui...
Non, parce que quand j'ai eu mon diplôme, c'est drôle parce que c'était une toute petite promotion, il y avait Patrick Poirier, l'actuel, l'artiste, Patrick et Anne Poirier, qui font des choses, des ruines tout à fait intéressantes. Et la programmation de ma famille, c'était on fait des choses un peu artistiques avant de se marier, puis on se marie. Et là, malheureusement, le schéma était détourné. J'arrive avec mon diplôme, mais que faire? On ne peut pas vivre en étant maître verrier. C'est impossible. J'ai cassé des bouts de verre pour des maîtres verriers, mais ils ne me payaient pas et c'était absolument impossible de survivre. Et François savait qu'il avait intérêt à trouver quelque chose qui m'intéresse. Et c'est à cause de lui que j'ai préparé à la fois ma licence de droit, ça c'était pour attendre, à Assas, et l'école du Louvre, les deux en même temps, ce qui est beaucoup.
Mais vous prenez les cours de dactylo même pour le cas où éventuellement...
C'était pendant l'été.
Oui, pour le cas où il faudrait gagner votre vie, votre obsession d'être libre par rapport, au soutien de vos parents.
Mon père avait 5 enfants, c'était très lourd. Donc c'est pour ça que j'étais toujours en colocation, toujours avec partager une chambre avec des plus ou moins...
4 ou 5 jeunes filles.
Oui, ça c'était plutôt rigolo, mais ça, une chambre à moi, j'aurais bien aimé. Hein, et j'ai mis longtemps à l'avoir. C'est simplement quand j'étais rue Saint-Placide que j'ai eu ma chambre à moi. Très, très, très heureuse de ça.
Vous suivez les cours de l'Académie Charpentier, rue de la Grande Chaumière.
Oui, ça c'était pour préparer. C'était un bonheur d'arriver à Paris, de dessiner, de... Quelle joie. Mais bon, là, très vite, un prédateur est arrivé sur cette joie. Mais qui ne m'empêchait pas d'avoir la vie voulue par mes parents, c'est-à-dire les soirées dans les rallyes, tout le tralala.
Ce qu'il supporte d'ailleurs très mal.
Oui, et alors il m'a fait une très bonne chose. Il m'a dit qu'il ne fallait plus jouer au bridge, c'était une perte de temps, que la vie était trop courte. Et ça, je lui rends grâce, parce qu'il y avait, en plus des soirées, il y avait les bridges. Donc, terminé.
Ces réactions, quand vous songez un instant, faisant du droit, à être professeur de droit...
Professeur de... Ah, c'était drôle, ça. C'était professeur de dessin. La ville de Paris recrutait des professeurs de dessin. Et il pensait qu'il fallait pas aussi s'inscrire. Donc, je m'inscris. Et c'est là où on se rend compte ce que l'esprit peut faire sur la vérité. Je suis allée voir les listes des résultats. Je ne me suis pas vue, alors que j'étais reçue. Mais j'avais pas envie. Je ne me suis pas vue. C'est étonnant ce qu'on peut trafiquer. Enfin, on voit avec ce qu'on sait ou avec ce qu'on ne veut ou avec ce qu'on veut. Donc, grâce à ça, j'ai fait mon droit qui m'a bien embêté. L'école du Louvre que j'ai adoré, passionnant. Mais les deux en même temps, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'où l'utilité de la bicyclette. Parce que pour aller de l'un à l'autre, à Assas, rue du Louvre...
Il n'y avait pas encore un panier d'osier sur la bicyclette.
Il n'y avait pas encore un panier d'osier.
Voilà une conversation que nous allons prolonger demain. Pour la suite de ces rencontres, Anne Pinjot. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue. Jean-Noël Jeannenet rencontrait Anne Pinjot. Réalisation Anne-Laure Chanel. Prise de son Jérémy Thuile. Attaché d'émission Claire Poinsignon. Coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.